Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
Vincent, la commission chargée d'organiser les débats aux États-Unis en a eu trop hier soir, là.
Ouais, parce que pour ceux qui ont écouté le débat hier entre les deux candidats à la présidence, c'était difficile à écouter, là. Même, je pense, pour tous les analystes, qu'ils soient de gauche, de droite, pro-Trump, anti-Trump, c'était un exercice qui a été vraiment laborieux en raison de la cacophonie, à peu près généralisée, de sorte que ces trois débats, entre les candidats, sont organisés par un comité, là, donc sur les débats présidentiels, qui s'assure, c'est d'ailleurs, ça a été répété à M. Trump quelques fois, là, disant, vos deux camps ont accepté les règles, par exemple, de se tenir silencieux pendant deux minutes où l'autre personne a le droit de parole, face aux...
Ça, honnêtement, j'avais jamais vu ça. Tu sais, mettons au Québec, au Canada, pendant les droits de parole, mettons, souvent c'est moins que deux minutes, parce que 45 secondes, ou une minute, oui. Ou une minute 15 au début, là, tu vas jamais... les autres candidats sautaient dans mêlée pendant que l'autre était en train de faire son introduction ou sa réponse à la question d'ouverture. Jamais.
Oui, on voit, il y a des gens, moi, qui me disaient, ouais, mais aussi, c'est la cacophonie chez nous, mais souvenons-nous, le dernier débat au fédéral, il y avait quoi, 5 personnes? Donc, à un moment donné, tout le monde, dans les conversations à plusieurs, ça devenait cacophonique, c'est un exercice difficile. Là, c'est 2 personnes.
Ouais, mais même là, faut quand même, tu sais, c'est sûr que des fois, ça embarque un peu un par-dessus l'autre. Mais là, hier, même, quand tu dis que l'animateur, là, il y a une question, le bloc, là, c'est convenu. Ce sont des règles du jeu. Le bloc commence avec une question de l'animateur. Trump aime pas le préambule. C'est dans son préambule, il dit oui. Bon, Obamacare, etc. Lui, il aime pas le préambule. Il laisse pas l'animateur poser sa question. Il saute d'en face, puis il plante sur son préambule, puis la question est pas posée. T'as-tu déjà vu ça? T'as-tu déjà vu l'animateur pas pouvoir finir sa phrase, finir sa question?
Mais
c'est inédit.
Trouves-tu que le modérateur a fait un bon travail? Parce que je voyais des critiques quand même des pro-Trump qui disaient ma foi, il se prenait pour un des debaters là-dedans ou un des candidats. C'est allé trop loin.
Ces questions étaient difficiles. Ces questions étaient difficiles pour les deux candidats. Écoute, sur la Cour suprême, il a posé une question difficile à Biden. Biden n'a même pas répondu. Il a posé aux deux candidats des questions qui étaient des questions difficiles. Tu veux être président des États-Unis, il faut toujours bien que tu répondes aux questions sur les controverses en cours, puis les affaires où ton programme de parti est attaqué. Puis écoute, il y a aussi dit à Joe Biden, tu sais, qu'il prévoyait des augmentations de taxes énormes, des dépenses. Tu sais, il a posé des questions dures aux deux. C'est juste que dans le cas de Biden, la question a l'air moins dure. C'est qu'il accepte, là, il prend une face de politicien qui écoute une question difficile, puis il répond. Alors que Donald Trump laisse pas l'animateur finir. Après ça, il blâme l'animateur, il dit « il débattait avec moi ». Non, il débattait pas avec toi, man.
Il essayait juste de finir sa question.
Il essayait juste de finir sa question. Et je pense qu'à un moment donné, Chris Wallace, écoute, il y a pas 13 ans lui non plus, là, il est pas en culotte courte. Il s'est dit, si je ne finis... Tu sais, sa question sur la santé, il s'est dit « si je ne finis pas ma question jusqu'au dernier mot et au point d'interrogation, je perds toute autorité, là ». Auprès des candidats qui sont devant moi, auprès du public à la maison.
Tu veux pas perdre ton débat, là. Tu veux pas perdre le contrôle de ton débat, là.
C'était le deuxième sujet, c'était au tout début, là. Donc là, il s'est dit, faut que je le mette le pied à terre. Et c'est pour ça qu'il a tenu tête à Trump à mort pour finir sa question. Et il a fini sa question, de fait. Mais tu sais, Trump, hier, après le débat, je sais pas si t'as vu la photo, il se met lui en gros versus, là, tu sais, les deux autres, comme pour montrer que lui avait deux mm-hmm. Lui est fort, mais il a dû combattre deux adversaires, puis jouer à la victime, là, puis tu vois ça pathétique, franchement. C'est un peu un aveu d'une défaite en même temps, là.
On disait qu'il y a eu des réactions de la commission. Ils ont donc écrit un communiqué un petit peu plus tôt aujourd'hui, disant à la suite du débat d'hier, ça a rendu clair le fait qu'on devait ajouter des structures additionnelles au format pour s'assurer d'avoir un débat qui soit plus ordonné et des discussions qui soient pertinentes.
Mais Vincent, ils prennent des grands mots, là. Mais il y a juste une affaire que tu peux faire.
C'est couper le micro.
Dis-moi une autre chose, là. Je veux dire, en bout de ligne, tu mettras les règles, les temps, les deux minutes, les encadrements que tu veux. Si le débatteur s'en fout puis qu'il se met à parler à tout moment puis son micro est ouvert, t'es faite, là. Il n'y a pas d'autres mesures. En tout cas, corrigez-moi, là, mais il n'y a pas d'autres
mesures. La caméra aussi, à la limite, quand ton micro coupe, la caméra ne va plus. Ouais. T'auras beau faire des simagrées, tu vas les faire.
Au Parlement, c'est le même. Hein? Au Parlement, là, quand ton temps est fini, là,
ça coupe, oui, ça coupe.
Ton micro est à off, la caméra est plus sur toi.
C'est ça, ménagement.
Au pire, on entend. Oui, c'est ça, à l'Assemblée nationale, c'est comme ça. Fait qu'au pire, on entend dans le micro. Mettons que c'est le micro du président ou le micro d'une autre personne qui est ouvert. Tu vas entendre à travers le micro de l'autre, là, à 42
gueuler
mètres.
Gueuler en
loin,
fond.
Tu vas entendre le malade qui gueule. Le malade qui gueule en arrière-plan, là. Mais il n'y a plus la caméra, il n'y a plus le micro, là. Tu comprends?
Bon, mais on en arrivera peut-être là, parce que reste qu'on, à ce niveau-là, c'est pas, on fait pas de débat, là. Parce qu'on se tapera pas ça trois fois. C'est un exercice qui a été inutile. Pour les Américains moyens hier, c'est un combat
moi,
dans la boue.
Jusqu'à
là.
La fin, mais je peux te dire que ma charmante épouse qui avait prévu de le regarder à peu près à peut-être une heure, 40-50 minutes, une heure, est partie frustrée se coucher en disant hey, c'est ridicule cette affaire-là, c'est un débat, c'est de la connerie.
Et c'est pour ça, entre autres, que je donnerais la victoire à Biden parce que sur le bout de la COVID, il a gagné plus, à mon avis, cette partie-là. Puis c'est sûr que Donald Trump avait un lourd bilan, mais c'est tôt dans le débat. Puis effectivement, les gens quittent quand même rapidement, là, puis c'est encore plus peut-être hier. Donc, je sais pas toi à qui tu donnes la victoire, c'est une victoire à donner.
Moi, c'est la victoire oratoire. Je pense quand même qu'il y a une bonne partie des gens qui sont sensibles juste à l'image de qui a l'air le plus fort. Et Trump sont toujours gagnants à ce jeu-là parce que il dit n'importe quoi, il ment, mais il a jamais l'air faible. Il est jamais hésitant, il répond. Mais là où je pense que Biden a gagné sur le plan de la stratégie politique, c'est que ce matin, là, hier, à la même heure, là, Trump y avait perdu. Il est 8 points en arrière d'un sondage. Il est en arrière dans tous les États-clés. Il n'est pas en train de gagner. La clé des républicains, c'est de faire peur aux Américains sur le fait que Biden, cet homme-là, il est pas assez fort pour gouverner. Là. Il est fragile. Il est faible.
Il est mêlé.
C'est triste à dire. Il est vieux, un peu vieillissant, mêlé, c'est ça. Puis, il est trop faible. Il peut pas gouverner le pays. Et donc, pour faire ça, il fallait que ce matin, la discussion porte sur Joe Biden. Il faudrait que la discussion publique, que Trump, on l'oublie, là, que la discussion publique porte sur Joe Biden. Donc, les indécis en train de déjeuner dans un, j'allais dire un Tim Hortons, mais ça, c'est purement canadien.
Mais les experts s'obstinent, pour sûr, est-ce que Biden vraiment était vraiment trop mou?
Pas assez fort. Puis que dans un restaurant à café aux États-Unis, là, ce qu'on voit dans un petit village, les gens disent, ouf, Biden. On avait pensé voter pour lui, mais là, es-tu vraiment sûr? Et peux-tu tenir tête aux autres chefs d'État de la Terre? Es-tu assez fort? Il va-tu tenir le coup pendant 4 ans? Et ce matin, la discussion portait encore sur Trump, là, sur le style de Trump, la façon de faire de Trump, sur
son incapacité à condamner les extrémismes, les extrémistes de droite. Ça, c'est revenu quand même souvent.
De ce point de vue-là, si Biden qui était, tu sais, si Biden était en arrière d'un sondage, je te dirais, c'est une catastrophe pour lui, mais comme il est très en avance, le fait que ce matin, on pose pas vraiment de questions particulières, qu'il a tenu le coup, qu'il a été là jusqu'à, pendant 1h30, il était là jusqu'à la dernière minute, même il était meilleur dans la dernière demi-heure que dans la première, tu veux mon avis. Donc, je pense que, tu sais, Trump a échoué dans son besoin de brasser la campagne complètement.
Et moi, ce que je pense aussi, c'est que là, Trump, sur le fait de craquer sa base, là, il a plus besoin de faire ça. Là, la base est craquée. Il faut qu'il aille chercher dans ceux qui hésitent. Et je pense que c'est pas ça qu'il a fait hier. Il y a probablement une fatigue dans ceux qui ont voté Trump en 2016, plus nuancés, qui votaient pour brasser un peu la cage, secouer les puces. Puis après 4 ans de cirque, ouais, là, je pense qu'ils sont tannés. Puis hier, c'était juste ça du cirque. Donc pour ceux qui sont un peu tannés, qui disaient, moi, j'ai juste le goût de quelqu'un qui va gérer, puis de pas penser à Trump à longueur de journée, là, vivre ma vie tranquille. Mais je pense que hier, là, pour ceux qui sont un peu tannés de ça, Trump leur a juste donné ça. Là.
Il les a achevés. Ouais, c'est possible. Bon, Vincent, revenons chez nous. Dans les autres nouvelles, il y a Santé Canada qui a finalement approuvé un premier test de détection rapide.
Oui, c'est une bonne nouvelle, alors que, mardi seulement, le fédéral annonçait qu'il réservait presque 8 millions de tests de la compagnie pharmaceutique Abbott et de ces tests rapides là, qu'on appelle ID Now, qui permettent d'avoir une réponse en environ 15 minutes. Ce qui, évidemment, est super intéressant dans tout le dépistage qu'on veut faire. Donc, ça n'a pas été très long, parce qu'on avait acheté ces doses-là avant d'avoir, alors que la permission de Santé Canada, l'autorisation d'utilisation est en attente. Ben aujourd'hui, ça s'est fait. Sceau d'approbation de Santé Canada, première technologie de dépistage rapide à être autorisée. Ça s'est autorisé dans quelques autres pays, là, mais on est en attente chez nous. D'ailleurs, les conservateurs, on le suivait depuis quelques jours, déploraient depuis très longtemps la lenteur d'autoriser ces tests rapides, alors que du côté des libéraux, on disait qu'on voulait pas mettre de pression politique sur Santé Canada et que le travail pour la fiabilité des tests devait être fait. Alors, ça va arriver quand? Les prochaines semaines, selon Justin Trudeau, on devrait avoir ses premiers tests rapides. On en a 8 millions. Alors, on verra pour son utilisation un petit peu partout. On sait que dans bien des endroits, ce sera critique pour pouvoir opérer, de pouvoir faire des tests rapides. Dans certains cas, même en rentrant au travail, dans des positions critiques, de pouvoir faire un test rapide.
T'aimes bien finir ça avec une nouvelle un peu plus légère. Qu'est-ce qu'il y a comme problème important avec les toilettes à double chasse?
Mario.
Là, tu parles des toilettes qui a un gros bouton puis un petit, là.
Oui.
Est-ce que en Europe qu'ici, ça commence ici.
Ben, il y en a quand même pas mal. Généralement, quand tu changes de toilette...
C'est ça, les nouvelles générations. Là.
Ça, on va s'installer ça, là, donc, avec un petit bouton, le gros bouton, qui permet d'avoir... En général, le petit bouton, c'est 4 litres. Le gros bouton, c'est 6 litres. On comprend à quoi sert.
Pas gaspiller trop d'eau pour un petit pipi. Hein? On va résumer l'utilité comme ça.
Exactement. Mais là, Mario, parce que c'est évidemment l'utilisation de ces toilettes-là n'a qu'un seul but, c'est de réduire la consommation d'eau, qui est immense avec les toilettes. Mais là, selon un article, un dossier de la BBC, donc c'est quand même, on s'entend, une organisation crédible, les toilettes à double chasse, donc modernes, environnementales, causeraient la perte de milliards de litres d'eau au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que ces toilettes-là sont plus sensibles aux fuites. Alors, on dit qu'il y a à peu près 5 à 8% des toilettes qui ont une fuite, ce qui est évidemment très, très nuisible, parce que une fuite sur 24 heures, là, ouais, ça en consomme de la floche. Et qu'une grande partie des toilettes qui ont des fuites au Royaume-Uni, ce sont les toilettes à double chasse. Donc, les toilettes avec de petits réservoirs où on peut juste envoyer un 4 litres. Pourquoi? Parce que, là, pour ceux qui ont tous déjà ouvert sa toilette pour aller régler un problème ou quoi que ce soit, là, on sait, là, l'espèce de siphon là, qui va se coller au fond. Mais dans les doubles chasses, c'est ce qu'on appelle c'est un type de valve, mais qui est collé dans le fond et qui, dès qu'il y a des débris dans l'eau, un éclat de porcelaine, un dépôt de calcium, une impureté, ben ça va créer une fuite. Alors, ces toilettes-là ont vraiment tendance à faire des fuites. Et selon des organisations, même de protection environnementale maintenant, on dit que ça fuit beaucoup plus que ça sauve de l'eau maintenant, au point où on pourrait, juste au Royaume-Uni, là, on parle de 400 millions de litres d'eau qui sont perdus, l'équivalent de pouvoir se renvoyer de l'eau à 3 millions de personnes dans une ville comme Édimbourg.
J'adore ce genre de nouvelles où à vouloir, tu sais, la fameuse phrase, le mieux est l'ennemi du bien.
C'est ça. Bon, on se souvient des ampoules fluo compactes, là, tu sais, où c'est-à-dire, okay, ça consomme moins d'énergie, mais t'en casses une, faut que t'évacues l'édifice. Alors là, on dit, faites des tests. Vous avez des toilettes de ce genre-là. Il y a des tests, vous allez voir ça sur YouTube ou d'autres façons. Comment savoir si votre toilette fuit? Parce que si vous êtes un green qui a acheté une toilette chère à double chasse, ben, ça se peut que vous soyez moins vert que votre voisin qui a sa vieille toilette de 1970. Là.
Merci, Vincent.
Merci.